Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 26 mars, il est 18h. Bienvenue dans Cour d'honneur. Bienvenue dans le magazine culturel de la Sorbonne. Une fois par mois, les étudiants de la plus vieille fac de France prennent place dans le studio de Radio Campus Paris pour vous raconter les meilleures histoires qui parcourent les couloirs de Sorbonne Université. On va pas se mentir, en ce moment c'est la merde. On a un super jackpot gagnant, guerre, élection, déni d'urgence climatique qui nous plombe tous un petit peu. Surtout si t'as passé le week-end à profiter du soleil et que t'as la flemme de remonter dans le métro demain. Mais t'es casse, ce soir, on se retrouve, on se requinque. Alors si ça va pas top, tu tombes vraiment bien. On t'emmène rêver à un monde qui fonctionne. Musique, amour, ciné, chaleur, soleil, savoir utile et inutile. On a tout ce qu'il te faut pour repartir au taquet dans la semaine qui commence. Alors du fond de l'amphi jusqu'au sommet des chambres de Bonne, vous êtes les bienvenus dans la cour d'honneur. Salut, moi c'est Blanche. Ce soir, je te guide dans le super moment que t'ont préparé les bénévoles de RSU. Et comme pour passer un bon moment, c'est toujours mieux d'être avec des bons potes, je te présente la Dream Team de ce soir. On commence par notre première chroniqueuse cinéma, Zoé.
Salut! Alors moi, je vais vous parler d'un film géorgien. Donc la Géorgie, pour situer un peu, c'est près de l'Ukraine. Et il s'appelle Sous le soleil de Koutaïssi.
Voilà. Ok. Nous avons aussi avec nous celui dont on ne sait jamais s'il nous emmène en boîte ou en manif, Pierre.
Bonsoir à tous, alors moi aujourd'hui je vais vous parler de Harry Styles sans robe, de glam metal et de virilité toxique.
À ses côtés, celle qui nous avait parlé de Valence au dernier épisode, mais qui risque de nous emmener vers des contrées un peu plus fraîches, Adriana.
Tout à fait, salut à tous, je vous parle de la Panthère de Neige ce soir.
Et cette fois-ci, un revenant qui nous a rejoint, salut Nathan.
Bonjour, bonsoir, un plaisir de revenir dans l'émission et ce soir on va parler d'un truc dont il faut pas parler très fort, de la triche.
Oh là 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 là. Et enfin, pour finir, notre taulier qui assure autant à la régie que derrière les micros, Thomas.
Salut Blanche, bonsoir à tous. On dit souvent que c'est pas la taille qui compte, pourtant ce soir je vous parle de la plus grande rue de Paris.
Eh ben, ça promet. Mais pour commencer, c'est moi qui prends la parole.
Le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Vu qu'il fait beau, qu'il commence à faire chaud, que les oiseaux chantent et tout le tralala, moi, j'ai décidé de vous parler d'amour. Alors oui, aujourd'hui je parle d'amour, mais ne vous inquiétez pas avec moi, vous l'avez compris, la révolution n'est jamais loin. Parce que certes, les oiseaux chantent, mais apparemment, ça suffit plus pour tomber amoureux et être heureux à deux. Il y a ce petit vent qui court dans les couloirs de la fac, un petit vent qui nous souffle que le couple, c'est plus une idée qui fonctionne et qu'il faut trouver autre chose. On se demande pourquoi faire couple, on se demande comment faire couple. Parce que cette institutionnalisation de l'amour pose apparemment problème. On ne dit plus que des partenaires sont fidèles, on dit qu'ils sont exclusifs. On cherche légitimement à fuir les relations d'emprise, on veut plus être les mères de nos mecs, on est curieux et curieuse de plein de choses et de plein de personnes. Donc, on a des couples libres, des relations non exclusives, des plans cul, des troubles, des polyamours, de l'anarchie relationnelle, ça foisonne, ça bourgeonne de partout. Mais il y a un truc qui me chiffonne toujours. J'ai l'impression que cette révolution romantique est tiraillée entre deux conceptions totalement contraires, entre libéralisation et collectivisation des affaires, des corps et des sentiments. D'un côté, c'est comme si on tombait dans un caprice permanent. On veut tout, tout le temps, tout de suite, et pour le coup, on veut aussi tout le monde. C'est appliquer une logique capitaliste aux relations sentimentales ou sexuelles, accumuler, stocker ou utiliser, et jeter les gens comme un mouchoir à la fin d'une bonne branlette. Et ces nouvelles façons de vivre l'amour répondent aussi à un gros problème du couple traditionnel, l'enfermement qui mène à la dépendance et met sur l'autre la responsabilité de tout notre bonheur. Du coup, en ouvrant les relations, on renonce à l'idée qu'une seule personne puisse être toute notre vie. D'une certaine manière, on met au commun la prise en charge des désirs pour soulager tout le monde. La personne est comblée sans épuiser un partenaire unique, mais en recevant de l'affection et de l'amour de plusieurs sources différentes. Bon, du coup, utiliser les corps, ouvrir son cœur à une multiplicité de personnes ou renoncer à tout ça, moi là-dedans, j'étais un peu perdue. Surtout que comme je l'ai dit, avec le printemps, tout s'accélère et la question se pose de plus en plus. Et là, paf, j'ai trouvé la solution. Et comme je suis sympa, je partage, on va tous se sentir un peu couillon de pas y avoir pensé avant parce que cette solution, elle a été écrite en 1923 par Alexandra Kollontai. Si vous ne la connaissez pas, allez voir qui c'est, et retenez que c'est la première femme de l'histoire à être ministre. Grâce à elle, l'URSS devient le premier état du monde à légaliser l'avortement en 1920. Mais là, je vous parle d'un message qu'elle nous adresse à travers le siècle et qu'elle écrit, je l'ai dit, en 1923, « Place à l'éros ailé, lettre à la jeunesse laborieuse ». En gros, elle se demande que faire de l'amour dans une société communiste qui est en train de se bâtir en URSS. Parce que pour elle, l'amour est un facteur à la fois psychique, une force biologique, et un facteur social, puisqu'il nous lie aux autres. Et là, j'adore, elle nous fait un petit point histoire, dont l'idée est de démontrer que chaque type de société a inventé des codes pour vivre l'amour en préservant ses intérêts. On n'a pas le temps de tout reprendre, mais arrêtons-nous deux minutes sur ce que l'idéologie bourgeoise fait à l'amour. Son but, à l'idéologie bourgeoise, c'est d'accumuler et de conserver du capital dans les familles. Dans un couple, les individus sont des partenaires, et pour préserver ce capital, le mieux c'est quand même de vouloir faire plaisir à l'autre, à la limite de ne pas vouloir lui nuire. En installant l'amour au sein des couples mariés, on s'assure qu'ils vont tous les deux travailler à l'objectif d'accumulation de richesses par peur de déplaire à l'autre. Donc, on se limite à une seule personne pour ne pas trop dépenser son énergie et sa richesse à entretenir des relations amoureuses. L'autre devient mon mari ou ma femme, marqué du sceau de ma propriété, il ne peut pas et ne doit pas aller ailleurs. Sauf que ce modèle, il ne fonctionne pas vraiment. Il y a peu de couples qui passent l'épreuve du temps, comme on dit. Du coup, on est malheureux, on se trompe, on dilapide le patrimoine commun ou on divorce, ce qui donne en plus un bon coup dans le porte-monnaie. Et face à ça, pour la société communiste, Alexandra Kollontai propose une solution, l'amour-camaraderie. Je vous explique. La société doit être bâtie sur le principe de la camaraderie, de la solidarité. C'est-à-dire, en plus de la conscience qu'il faut défendre nos intérêts communs, l'idée que pour que ça fonctionne, il faut des liens de cœur et d'esprit entre les membres de la collectivité laborieuse. On développe donc toute une société basée sur la solidarité et la collaboration, et on unit ses membres par la capacité potentielle d'amour, en gros, la capacité à avoir des sensations sympathiques envers toute la société. Mais il reste un problème. Justement, on fait quoi des couples ? Parce qu'il y aura forcément des relations plus que fraternelles ou sorores dans cette société, mais qu'on est à un carrefour entre deux modèles de civilisation, le couple bourgeois, motivé par un sentiment de propriété, et quelque chose d'autre, on ne sait pas encore trop quoi, mais dans laquelle l'amour rendrait les personnes libres et non soumises. En fait, Alexandra Kollontai ne définit pas exactement l'amour-camaraderie. Elle pose les bases et nous demande de nous démerder avec ça, donc je la lis. Dans cette période, l'idéal moral déterminant les relations sexuelles n'est point le brutal instinct sexuel, mais les multiples sensations éprouvées aussi bien par la femme que par l'homme d'amour-camaraderie. Pour correspondre à la nouvelle morale prolétarienne qui se forme, ces sensations doivent reposer sur les trois postulats suivants. Premièrement, égalité des rapports mutuels, sans la suffisance masculine et sans la dissolution servile de son individualité dans l'amour de la part de la femme. Deuxièmement, reconnaissance par l'un des droits de l'autre et réciproquement, sans prétendre posséder sans partage le cœur et l'âme de l'être aimé, sentiment de propriété nourri par la civilisation bourgeoise. Et troisièmement, sensibilité fraternelle, art de saisir et de comprendre le travail psychique de l'être aimé. La civilisation bourgeoise n'exigeait cette sensibilité dans l'amour que chez la femme. Et à partir de ça, on fait ce qu'on veut. Camarades, aimons-nous.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
On attendait tous, ou presque, la fin du masque obligatoire. Depuis le 14 mars, on ne doit plus le porter, plus que dans les transports et les lieux de santé, mais l'épidémie n'a jamais vraiment disparu dans la tête de beaucoup de Français. D'après un sondage YouGov, publié cette semaine, 68% des Français continuent de le mettre au travail. Trois quarts les mettent encore dans les magasins. Une prudence accentuée par les mauvais chiffres de l'épidémie. Mardi, 180 777 nouveaux cas ont été recensés en l'espace de 24 heures, contre 116 000 mardi dernier.
Ben, on nous a tellement dit de nous protéger et tout que bon, on en a pris l'habitude. Moi, si je l'enlève, je sens que je suis toute nue.
Bah, moi, mon choix, c'est de le conserver. C'est au-delà du confort, c'est une question de sécurité, je pense.
Le Covid est toujours là, avec un grand nombre de contaminations qui augmentent. D'autre part, j'ai un certain âge, j'ai un mari qui est très malade, donc je ne prends aucun risque pour ne lui transmettre la maladie. Puis, c'est surtout prendre conscience qu'on se protège nous, peut-être qu'on protège aussi les autres. Hein.
Je suis naturellement quelqu'un de phobique. J'ai peur de la maladie des autres. Alors automatiquement, c'est-à-dire que je suis toujours très prévoyant par rapport à la maladie.
C'est trop bien.
Pourquoi ?
Parce qu'on voit le visage des gens, on voit leur sourire et voilà, c'est merveilleux.
On a l'impression qu'on laisse un peu tout ça derrière et ça fait du bien.
90% des clientes ne portent plus le masque, mais pour les clientes qui le souhaitent, qui ont envie de le garder pour des raisons personnelles, en tout cas, nous, on s'adapte à elles, on met aussi le masque.
Ça donne le sourire.
Ouais.
Ça donne le sourire de voir les gens
sans rien.
Puis nos clients, ça fait plaisir de les voir. Il y a plus d'émotions forcément, donc ça fait plaisir.
Je me souviens en novembre-décembre 2020, la jauge c'était 5000, quelque chose d'acceptable pour déconfiner. Et aujourd'hui, en fait, on n'y est pas à 5000. Il y a un rebond épidémique.
Mon père vient d'attraper le Covid et il est enseignant et tous ses élèves ont retiré le masque d'un coup. Effectivement, il a attrapé dans la semaine. Ça aurait été bien d'y aller un peu plus progressivement.
Ça fait 2 ans qu'on le porte et d'un seul coup, du jour au lendemain, quasiment, on nous dit qu'on peut tout enlever. Je pense que c'est plus à cause des approches des élections, etc. Et du coup, il valait mieux que les gens se sentent un peu plus libres, un peu moins muselés, quoi.
Donc, on l'a vu, si pour beaucoup c'est un soulagement, certains ne sont pas encore prêts à faire tomber les masques. Par contre, dans le studio aujourd'hui, je vois qu'on l'a tous fait tomber. Donc, vous en pensez quoi ?
Après, c'est vrai que quand on parle dans un micro, c'est pas évident d'avoir le masque.
Ouais, c'est vrai, il y a de ça.
Mais ils le faisaient dans toutes les radios. Hein.
Dans toutes les radios.
Sur France Inter, en tout cas, sur les vidéos, ils avaient tout le temps le masque. Et en vrai, ça n'affecte pas le son.
Ah ouais, alors que. Mais pourtant, à la télé, personne ne le portait.
Oui, à la télé. C'est peut-être parce que c'est
pas
visuel,
très esthétique, donc, alors voilà, ouais, c'est plus important, c'est vrai.
Et puis peut-être qu'il y a plus de distance sur les plateaux qui permettent. Mais bref, moi j'ai repéré, il y a un truc intéressant que disait un des interviewés, c'est que c'est marrant que cette autorisation tombe genre
quelle
si coïncidence des élections, oui. Alors que les chiffres restent quand même assez hauts et on va pas cracher dessus parce que je suis quand même plutôt contente d'avoir fini ça, mais c'est peut-être intéressant.
Oui, c'est pas anodin. Enfin, je suis d'accord avec toi. Ça tombe pile un mois ou un peu plus quand ils ont enlevé le masque avant les élections présidentielles. Je pense que l'élection présidentielle, je pense que c'est pas anodin. Après, moi personnellement, au début, j'étais un peu comme la majorité des gens qui ont été interrogés, c'est-à-dire un peu. Sur la réserve, c'est vrai que du jour au lendemain, on passe du tout au rien, alors que les chiffres sont pas très rassurants. Moi aussi, je suis un peu...
Tu l'as déjà eu, toi ?
Non, je l'ai jamais eu.
Ah ouais, peut-être pour ça aussi, parce que tous ceux qui l'ont déjà eu, ils disent, c'est bon, ouais. Je crains des gains, tu vois, je peux faire tomber le masque. Quand tu l'as jamais eu, tu flippes un peu.
Ouais. Je l'ai jamais eu, je l'ai... Enfin, moi, ça va, je le vis bien.
Et tu t'en fous, toi, tu t'as pas peur non plus.
Particulièrement pas du tout.
Moi je l'ai eu 2 fois et franchement en vrai à chaque fois j'ai été quand même vachement inquiet, donc le masque je trouve que c'est important, mais le fait qu'on l'enlève avant les élections, je trouve que ça participe un peu d'un côté que Macron et son gouvernement a en ce moment, on a l'impression qu'ils s'en foutent. Enfin, les présidentielles, il s'en fout, il débattra pas. Son programme, il est à peine sorti 3 semaines avant les élections. On a vraiment cette impression que là, il relâche tout, quoi. Après 5 ans, il est un peu fatigué, mais il veut quand même y retourner. Du coup, on y va à volo.
On vous donne des bonbons, les enfants.
Voilà, c'est ça. On balance des chèques de 100 euros à droite à gauche parce que le gaz, il augmente. Et puis, on verra bien au mois de mai quand il sera réélu, quoi.
Après, c'est vrai que c'est un peu de la responsabilité de chacun. Tu te dis, bon, j'ai pas peur de l'avoir, donc je le mets pas. Si tu te sens un peu plus fragile ou etc., rien ne t'empêche de le mettre.
Je crois que tu te trompes dans le sens. En fait, mettre un masque, c'est pour pas que nos postillons aillent dans
les autres,
etc. Pour que genre ceux des autres ne s'atteignent pas.
Donc, je suis d'accord.
Donc, c'est une façon de se dire oui, non, mais enfin, pas je me protège, mais comme disait une autre des femmes dans
les autres,
c'est ça. Je protège.
Ou alors qu'on nous a toujours dit que le mettre, enfin être le seul à le mettre, ça ne sert à rien.
Sauf si t'es le seul à avoir le Covid dans la pièce et tu aères de manière fréquente et que t'as des bonnes distances et tout.
Oui, c'est vrai. Après, est-ce que vous avez déjà senti une injonction, que ce soit parce que vous le portez, qu'on vous l'a fait remarquer ? On dit, mais pourquoi tu portes le masque encore, etc. Ça vous est arrivé ? Parce que je sais qu'au bureau, on en a parlé quelques
alors,
fois.
Alors oui, parce que moi, la dernière fois, je vais faire une prise de sang et en fait, tout le monde l'avait. Du coup,
c'est un établissement médical.
Ah oui, c'est encore. Ok. Ouais. Bon, alors j'ai rien dit.
Il y a deux endroits, c'est les transports. C'est après le métro récemment, c'est normal que tout le monde le porte. C'est encore obligatoire aussi.
Ah bon. C'est pareil. Le vélo, t'es tout seul, t'as le droit.
Ah, d'accord.
Mais moi, je suis perdu, hein, vraiment. Enfin, j'ai plus les codes sociaux parce que des fois, j'arrive dans un magasin, je vois 3 personnes masquées. Du coup, je me dis, il faut que je le mette. Et là, je galère à le trouver dans mes poches et je finis par le mettre, mais un peu stressé. Puis là, je tourne autour du rayon fromage et là, je tombe sur une vieille mamie qui le porte pas. Alors, je me dis, qu'est-ce que je suis censé faire ?
Le Saint-Nectaire.
Le premier matin, genre le lundi matin du 14 où c'était bon, genre je me suis arrêtée prendre un petit déj à la boulangerie et genre le boulanger il avait le masque et j'étais en mode, je sais que genre légalement j'ai le droit de ne pas le mettre, mais genre il n'est pas encore 8h et j'ai pas envie d'avoir ce débat là. Genre j'ai mis mon petit masque avant d'aller acheter mon petit déj, c'était trop. Mais je me suis dit, oh mince, j'aurais bien voulu ne pas le mettre, mais ça a commencé après.
Après moi j'ai découvert, oui Nathan.
Mais sur la question des transports, justement avec la mesure qui passe. Il faut m'expliquer les gens qui gardent encore leur masque tout seuls dans leur voiture. Qui sont ces gens-là ?
Ça, depuis le début, je me suis toujours demandé qui sont-ils, ouais, effectivement. Ouais.
Peut-être qu'ils aiment bien le petit frottouillis sur le bout du nez.
Puis l'odeur un peu synthétique là qu'on aspire tous les matins, franchement, on se sent propre avec ça, on se sent vraiment, vraiment désinfecté, quoi.
Mais du coup, moi, ce que je trouve intéressant dans le fait que ce soit proche des élections, c'est qu'on voit enfin à quel point la question sanitaire est en fait un choix politique avant tout, et il faut pas l'oublier. Donc, peu importe nos opinions sur est-ce que c'est utile, est-ce que machin. Bah, ce que fait le gouvernement, c'est pas une question sanitaire, c'est vraiment une question politique. Il faut vraiment faire gaffe avec ça. Donc voilà. Par contre, vraiment, quel plaisir de pouvoir se pécho au cinéma.
Allez, voilà. Zoé, à la Cinémathèque française.
Maintenant, on va parler de cinéma.
Gentlemen, you have my curiosity, but now you have my attention.
Les contes et les histoires d'amour ne devraient pas être le monopole des enfants, et c'est peut-être pour ça aussi que les adultes sont pleins de drames. Alexandre Kobéridze y remédie avec Sous le ciel de Koutassi, un film géorgien sorti fin février, dont Zoé va maintenant nous conter deux mots.
Quand dire, c'est faire, raconter, c'est refaire. Avec Sous le ciel de Koutassi, Alexandre Kobéridze nous conte l'histoire d'un coup de foudre différé par une malédiction, un mauvais mot soufflé par le mauvais œil, d'une caméra surveillant à distance les premiers pas maladroits de deux êtres qui se sont trouvés avant de s'être cherchés. Mais pour que le hasard soit véritablement fiable, il faut que sa trame trouve le temps de se dérouler. Sinon, l'eau coule sous les ponts sans qu'elle se cristallise en sentiments. La pellicule s'en mêle en tournant à vide. Il faut donc que la narration s'en mêle, que le moindre détail vienne demander aux amants le fil qui les lie. Car à la grande narration mythologique du conte répondent les longs plans fixes de la rêverie cinématographique qui capture les corps en attente. De l'autre, un genou replié sur une chaise, des pieds se traînant sur le sol, un regard qui perce à jour les apparences d'altérité sont d'autant plus éloquents d'histoire et de sensation que l'absence des mots sur ces images appelle l'imagination à y promener son regard. La scène de reconnaissance, topos universel que Kobéridze prend au mot, retrouver dans l'altérité ce que l'on connaît, une part de nous-mêmes. Encore faut-il savoir ce que c'est, nous-mêmes. Devenir complètement autre pour mieux se retrouver. Se retrouver pour mieux rencontrer l'autre, se retrouver dans la rencontre de l'autre, rencontrer l'autre en soi. L'universalité du conte d'amour ne permet-il pas ce reflet et ce relais d'identification qui nous rend à nous-mêmes ? Mieux, il révèle tel un émulsifiant de photographie le vrai visage de l'amour, toujours dans des corps, dans les interstices des rides d'un sourire plein de pudeur. À la monumentalité statuaire des grandes œuvres d'art dont on croit faussement qu'elles statuent définitivement sur ce que c'est que l'amour, Alexandre Kobéridze oppose les passages du temps qui coulent tels la rivière au milieu de la ville. Ces corps de marbre sont autant d'écrans de projection sur lesquels l'image danse et rencontre les aspérités d'une matière qui ne demande que le soin d'un toucher réparateur. Et les enfants du film, aussi libres dans leurs déplacements que les chiens errants qui se donnent rendez-vous aux quatre coins de la ville, sont les seuls à pouvoir faire face à cette monumentalité grandiose. Eux seuls sont capables de lire et d'écrire des mots aussi justes, puisque leur inscription sur des pages d'un cahier est un rituel mis en œuvre avec application et ferveur. Ils surgissent des images, de derrière un arbre qui avait d'abord cacher l'adulte en perdition. Ils jouent, donc ils sont. Mais ce qui est véritablement merveilleux, c'est que même les chiens ne sont pas exempts d'histoires d'amour à raconter. Car après tout, ne sont-ils pas membres d'une communauté qui se rassemble cérémonieusement autour des histoires que le grand petit écran a à leur montrer ?
Merci Zoé, et maintenant on écoute Supernature de Céron.
Thank you.
C'était Supernature de Céron. Vous êtes toujours avec nous dans Cours d'honneur, l'émission de Radio Sorbonne Université sur Radio Campus Paris. Avec Zoé, on vous a déjà parlé d'amour et maintenant c'est au tour de Pierre qui va nous parler de Harry Styles en robe, de glam metal et de virilité toxique.
Hey, this is not a test. This is rock and roll.
J'aimerais vous emmener dans le passé, 5 ans plus tôt pour être précis, en 2017, l'année des dernières présidentielles. Cet été-là, après avoir salement vécu l'élection de Macron, je suis allé au Hellfest pour la première fois. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, le Hellfest est un festival de métal et musiques extrêmes qui se déroule tous les ans pendant 3 jours à Clisson, en Loire-Atlantique. Durant ce festival, j'ai pu voir un groupe de black metal dont le batteur a fait de la prison pour le meurtre revendiqué d'un homosexuel. Mais j'ai aussi pu assister au concert d'un groupe de glam metal, vous savez, ce style de metal des années 80 qui reprend juste ce que faisait Bowie ou T-Rex 10 ans plus tôt, mais en plus bourrin et en plus caricatural. C'est un style musical très masculin, mais dans lequel les hommes se travestissent, dans une quête anticonformiste qui finalement ne fait que renforcer leur virilité. Et donc, ce concert, c'était celui du groupe Steel Panther. À un moment de la prestation, je ne sais pas pourquoi, la caméra s'est braquée sur une femme dans la foule, qui était sur les épaules d'un mec. C'était le moment de ces transitions humoristiques entre deux morceaux. Et là, le chanteur s'est mis à crier « Nichon, 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 montrez vos nichons ». Des milliers de personnes regardaient cette femme, qui était visiblement mal à l'aise d'être filmée sur écran géant, astreinte à se dénuder par ces mecs reprenant les codes de genre féminin. Je vous ai même trouvé un extrait.
« Montrez vos nichons ! Montrez vos nichons ! Let me hear you say, nichon, 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 nichon.
Sur le moment, je vous l'avoue, je n'ai pas été choqué. J'avais 18 ans, homme parmi les hommes, c'était avant mon coming out forcé. J'ai même trouvé ça drôle. Et pourtant, depuis 5 ans, cette image m'obsède, et je n'ai eu de cesse de la retourner dans ma mémoire jusqu'à ce que ce soit le seul souvenir que je garde de ce concert. Et un sentiment horrible revient toujours, la solitude innommable qu'a dû ressentir cette femme. Et puis, comment ces hommes maquillés dans des tenues moulantes à paillettes ne faisaient que reproduire les comportements toxiques de leurs semblables. Le message était clair. Femme, par ta seule présence à mon concert, ton corps m'appartient, et sans même te connaître de mon regard et de ma volonté, je peux te déshabiller. Je vous passe les incroyables problèmes de viol dans ce milieu musical et vous renvoie à l'excellent podcast Ivystérique qui réalise un énorme travail sur le sujet. Là où je veux en venir, c'est la symbolique du travestissement pour des hommes hétéros comme les musiciens de glam metal. Parce que ce n'est pas inhérent au glam metal de se travestir, d'aller piocher dans les codes de genre, opposer la touche de subversion qui nous fera paraître rebelles, sans que la réciproque soit envisageable, évidemment. Et cela ne mène évidemment pas à la fin du sexisme, ça le renforce presque. Dans un épisode du podcast « À bientôt de te revoir » de chez Binge Audio, Edouard Louis dit « Si tu es perçu comme le mec masculin, là, t'as un pouvoir complet sur la norme et tu fais ce que tu veux. Les dominants font ce qu'ils veulent. » Il fait référence ici à une photo de son père déguisé, maquillage, perruque et vêtements en danseuse classique. Si vous avez lu ses livres, vous savez comment son père était une incarnation de la masculinité toxique, obsédée par la virilité. Dans les musiques populaires, il est de bon ton de jouer avec les codes de genre surtout, mais vous le savez, nous le savons, les musiques populaires sont historiquement l'apanage des hommes hétéros surtout. Ce que nous dit Edouard Louis ici, c'est que la seule raison pour laquelle ils peuvent subvertir les codes de genre, c'est bien parce qu'ils en incarnent le versant dominant, que la supériorité qui est la leur est un pont permettant des allers-retours permanents. L'oppresseur peut se travestir car il oppresse, il contrôle la norme, pas seulement de sa position, non, il en contrôle le moindre recoin et s'autorise à l'explorer pour mieux l'affirmer. Et même maquillé, la voix aiguë sur des talons de 20 cm, il domine. On a tous en tête les images de Harry Styles en robe. David Bowie l'avait déjà fait sur la pochette de l'album The Man Who Sold the World. Il porte également du vernis dans ses clips et on lui doit le fait que tous les hommes se parent désormais de colliers de perles. Mais pourquoi ? Parce que c'est cool de jouer avec les codes. Parce que la subversion, c'est artistique. Parce que comme ça, H&M pourra vendre des ersatz de sa petite rébellion à la con et des milliers d'adolescents poursuivre l'exploitation des Ouïghours et la reproduction à la chaîne de ce comportement si cool. On arrive au point commun entre tous ces comportements dominants qui jouent avec les codes. Ce point commun, c'est leur inscription dans une industrie culturelle de masse. Leur complicité avec le capitalisme le plus crasse, celui qui efface les cultures, qui gomme toute aspérité politique, le capitalisme qui va chercher à exploiter chaque trait particulier pour en faire la nouvelle mode de masse. Mais je vous le rappelle, Harry Styles, le glam metal, on parle de stars planétaires, de mecs qui ne feront jamais partie des opprimés, d'hommes blancs riches et hétérosexuels. La pop musique fait partie d'un système, d'une industrie. La voracité de son modèle dépolitise tout, cherche à rendre cool chaque différence pour pouvoir mieux se renouveler. À tous les hommes hétéros qui portent du vernis à ongles, qui se maquillent ou se travestissent, avez-vous déjà eu peur ? Avez-vous déjà senti les regards hostiles se poser sur vos mains manucurées dans le métro ? L'homophobie suintée dans la rame ? Avez-vous déjà senti l'injonction à baisser les yeux au sol pour ne pas dévoiler l'unique trait de crayon que vous vous êtes dessiné sur la muqueuse avant d'aller en soirée ? Avez-vous déjà passé plusieurs heures à choisir les chaussures que vous allez porter à cette même soirée pour identifier quelle paire serait la plus pratique pour courir en cas d'agression ? Est-ce qu'on vous a déjà insulté ? Insulté tout votre être, votre existence, parce que vous portiez un bijou ? Est-ce qu'on vous a déjà agressé pour avoir porté un crop top ? Imaginez que vous subissiez une norme qui vous oppresse, vous étouffe et vous pousse à la marge, vous ostracise. On vous interdit d'être qui vous êtes et surtout d'afficher les attributs de votre différence. Imaginez maintenant qu'un jour, sans prévenir, votre harceleur se mette à se vernir les ongles parce que c'est cool. Chose pour laquelle il vous aurait traité de pédé 5 ans plus tôt. Lui, il a le droit. Il s'autorise ce que par l'insulte, il bannit. La pop musique est superficielle. On le sait. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'en tant que forme hégémonique, normée et normative, elle ne peut se renouveler qu'en piochant dans ce qui n'est pas la norme. Elle incarne un pouvoir dominant qui pousse à se créer une identité contre lui et qui finit par voler ce qui est devenu spécifique de la différence. À tous ces hommes de la pop musique et d'ailleurs, vous n'aurez jamais d'identité en volant celle des autres.
Merci Pierre pour ce passage en festival et cette nouvelle critique de l'industrie de la musique, ça fait du bien. Et on continue avec la carte postale d'Inès qui, elle, a passé son été caissière dans un Carrefour City.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Vous êtes bien sur la boîte vocale de RSU. Tous nos fabuleux animateurs sont actuellement occupés. Après le bip, l'appel vous sera facturé un sourire par minute.
Fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, faites le yes.
Salut le RSU, j'espère que vous passez un super été. Si vous vous demandez comment se passe le mien, il est plutôt productif. Et oui, pendant 2 mois, je vais travailler comme caissière au Carrefour City à Pau, dans le sud de la France. Je vous propose de vous décrire une journée type de mon travail. Le mardi 6 juillet, je commence le travail à 6h du matin. Le matin, on reçoit des palettes de produits qu'il faut déballer et mettre en rayon le plus vite possible. Comme je suis la caissière principale, dès qu'un client attend devant ma caisse, j'arrête ce que je fais pour l'encaisser. D'ailleurs, en parlant de clients, on peut tomber sur des clients un peu spéciaux. Vu que l'été dernier, j'ai aussi travaillé dans ce magasin, je peux vous raconter quelques anecdotes plutôt marrantes qui me sont arrivées. Entre le client qui, dès l'ouverture du magasin à 7h, achète un paquet de capotes en insistant pour savoir si elles sont de grande taille, parce que vous savez, j'ai un gros engin, ou encore la mamie qui, tous les jours à 7h, achète sa bouteille de rosée. En y réfléchissant, je me demande si cette anecdote est vraiment si drôle parce qu'on parle quand même d'une mamie alcoolique, et je pense que le plus drôle, c'est quand un papier m'a draguée. Il m'a même proposé un date. Vous voulez venir au spectacle des Lumières avec moi ce soir ? Au début, je comprenais pas, parce que la majeure partie de nos clients sont des retraités et ils adorent discuter à la caisse. Ils me racontent leur vie. Et ça me fait plaisir, hein, je me fais des copains et des copines. Enfin bref, avec le recul, je me suis pas rendu compte qu'ils se pavanaient. Par exemple, ils me racontaient qu'ils faisaient beaucoup de sport. Bon, revenons à la caisse. Dans mon travail, il existe deux horaires fatidiques. Vers midi, quand les clients sortent du travail pour leur pause déjeuner, en général, il y a beaucoup de monde et il faut faire vite parce que leur pause ne dure pas éternellement. Mais je pense que le pire horaire, c'est à partir de 18h. La queue va jusqu'au bout du magasin. On a l'impression qu'elle est infinie. Il y a toujours de nouveaux clients qui s'ajoutent. J'ai même un souvenir assez traumatisant d'une journée où je travaillais de 14h à 22h. Petite parenthèse, quand il y a du monde, je peux sonner 3 fois. Pour appeler soit une caissière, soit un responsable pour m'aider à la caisse. Et ce soir-là, j'étais seule à la caisse et le responsable avait beaucoup de choses à faire, donc il ne pouvait pas m'aider. Et il y avait une queue interminable. Je me dépêchais de faire passer les articles à la caisse en libérant le plus vite possible le tapis pour le prochain client. Tout à coup, arrive une cliente avec un paquet de pâtes. Jusque-là, tout va bien, un seul paquet de pâtes. Je me dis que ça va être rapide. Et là, elle me vide son porte-monnaie sur la caisse remplie de pièces d'un centime. Je tourne la tête à droite, je trouve la queue encore plus longue et encore plus remplie de clients impatients. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et le pire dans cette histoire, c'est qu'elle n'avait même pas assez pour le paquet. Alors je lui dis, madame, il manque de l'argent et je me rappelle plus combien exactement. Et là, elle me sort une poche en plastique remplie de pièces d'un centime. Et c'est reparti. Bien évidemment qu'il y avait des centimes en trop. Et cette dame, si généreuse, m'a fait don du reste. Heureusement, tous les clients ne sont pas comme ça. Et puis, dans ce genre de moment où j'ai juste envie de disparaître, je tombe sur des clients adorables. Ça peut paraître minime, mais quand un client me dit « Vous êtes bien courageuse » ou quand il me demande comment je vais, j'ai l'impression que mon travail est reconnu. Je ne suis plus la caissière du Carrefour City, mais Inès, l'étudiante qui a un job d'été. Et j'ai envie de vous partager un secret. J'ai pas perdu espoir. Grâce à eux, j'ai du plaisir à discuter avec les clients. Et heureusement aussi que je m'entends bien avec mes collègues. Comme la plupart ont le même âge que moi, il y a une bonne ambiance au travail. Tous ces points positifs me donnent envie d'aller au travail. Et puis, il y a aussi les jours où je dois travailler alors que je rentre de soirée, armée de ma volonté et d'une bouteille de Crazy Tiger, mes forces de tenir la journée. Voilà, c'était un résumé de mon été et j'espère que vous profitez du vôtre. Bisous la RSU.
Ça donne envie d'aller bosser à Carrefour, non, d'entendre ça?
Bah, étonnamment, ouais.
Elle est forte, hein. C'est Inès qui est partie en Erasmus cette année en Grèce, qui nous avait envoyé cette carte postale, comme tout le monde l'aura reconnu du Sud-Ouest, puisqu'elle dit une...
poche.
Une poche, exactement, une poche de petites pièces. Et non pas un sac, chez nous on dit une poche, ouais.
Ouais, c'est ça.
Inès, qu'on remercie. On espère qu'elle va nous rejoindre d'ailleurs dans cette carte postale.
Et qu'est-ce que vous dites
pour les cernes, du coup? Les cernes, on dit des poches aussi.
On
n'a
pas sur le temps à faire la sieste.
On n'a pas de cernes dans le sud. Donc, ouais, on a le temps, nous.
C'est trop bronzé.
C'est ça. Non, mais c'est sympa comme taf d'été, ouais. Carrefour City. Vous avez des bonnes expériences, vous, autour de la table, d'un job d'été qui vous a particulièrement marqué
un babysitting où, genre, ça, c'était vraiment à mon plan. C'était des petits que j'avais gardés pendant le confinement. Et en mars, leur mère m'appelle en me disant « Oui, mon frère se marie en Espagne cet été et on aimerait bien avoir une babysitter, comme ça on peut vraiment faire la fête. Est-ce que ça vous dit qu'on vous emmène avec nous en Espagne ?» Et du coup, j'ai eu une bonne semaine de vacances où du coup, je m'occupais des gosses la journée. Mais
ouais, ça change du babysitting dans le 17e où tu dois aller sortir de l'école à 4h30.
Au parc Monceau.
C'était vraiment un bon taf d'été.
Autour de la table, d'autres qui ont fait des jobs d'été sympas?
Alors moi, j'ai été accompagnatrice d'enfants porteurs de handicap dans une colonie de vacances. C'était vachement cool parce que du coup, j'avais juste un gosse à m'occuper, alors tout le monde était sous l'eau, etc. Moi, j'animais rien du tout. Hein. 11 et 6 ans, ou un truc comme ça. Bon, après, il y en avait un, il avait vraiment une vie, mais t'étais là, mais à quel moment? À quel moment? Mais en tout cas, c'était vachement intéressant. Voilà.
Cool. Nathan?
Alors, moins pour les enfants, après ça dépend de vos mœurs, mais la planque, c'est travailler dans un bar, parce que quand vous êtes seul au bar, vous êtes seul au bar.
Et c'est comme ça qu'il a eu cette voix de crooner d'ailleurs, à force de se faire des caipirinha ou autre rhum ambré en soum-soum. Non, moi une fois j'étais balayeur pour la municipalité du village où j'ai grandi. Eh ben, c'était vachement cool, tu allais dans les rues, balayer un petit peu, donner un petit coup de jet l'été quand il fait chaud et tout. Et je me sentais vachement utile, les vieux ils étaient contents de me voir, ils me filaient quelques petites pièces pour que j'aille arroser leurs plantes au passage et tout, c'était assez sympa. Ouais, c'était cool.
Bon, et ben on peut enchaîner avec de la musique, Oni de Moby.
Alors attends,
non,
faut pas juste dire Moby comme parce que tu ne connais pas Moby, mais d'ailleurs c'est sans aucun doute un des artistes les plus importants de la pop musique que Pierre adore. J'adore la pop musique.
Hein.
Et en plus, c'est un morceau, nos auditeurs vont l'entendre dans un instant, c'est un morceau qui fait de la réappropriation culturelle.
Oh non !
Puisqu'il sample un extrait de, d'un blues des chanteurs américains des années 60. Ils ont pris un extrait qu'il va transformer, comme on peut faire habituellement quand on utilise des samples dans la musique électronique. Est-ce que ça aussi, Pierre, ça méritera ta prochaine chronique au Moby ? Il faut s'élever contre ce réappropriateur culturel.
Alors, c'est justement un exemple typique de ce qui est hyper compliqué dans la réappropriation culturelle aux États-Unis, parce qu'en fait, ce sample, il est tiré d'une banque de sons, d'une collecte, en fait, qui avait été réalisée par les frères Lomax à travers tous les États-Unis et qui a permis de sauvegarder, en fait, tout un pan du patrimoine de la musique noire américaine qui aurait disparu sans ça, parce que c'était issu des Cotton Fields, etc. Et ça a été réutilisé par Moby, ça a été connu internationalement. Et je pense que c'est un exemple où, en fait, on peut pas dire que c'est juste de la réappropriation, parce qu'il y a toute une réalité scientifique derrière.
Eh bien, merci les garçons de m'avoir appris plus qui était Moby. J'en sors encore une fois avec un savoir inutile en poche.
Tu étais une page blanche.
Et maintenant, le savoir maître. C'était donc Oni du fameux Moby dont on a appris quelque chose. Dans Cours d'honneur, l'émission de Radio Sorbonne Université sur Radio Campus Paris, petit point d'étape, on vient d'entendre Inès nous parler de son été à travailler comme caissière. Pierre a repris ses bonnes habitudes avec une critique des dérives de l'industrie musicale. Je me suis lâchée dans un famage à la grande Alexandra Kollontai, même si elle est russe. Et Zoé nous a parlé du film géorgien Sous le soleil de Koutassi. Et maintenant, munissez-vous de patience, d'écoute et de silence avec Adriana, notre chronique cinéma. On part dans les hauts plateaux tibétains à la rencontre de cette créature qu'on croyait disparue, la panthère des neiges.
Prendre le temps de contempler, prendre le temps d'attendre, accepter la défaite, accepter l'éternité. Un besoin inébranlable de beauté dans un monde dénaturé. Une panthère, une nature féroce et vive. Patienter, lutter, admirer. Le livre de Sylvain Tesson, La panthère des neiges, commence avec ces lignes. Je l'avais rencontré un jour de Pâques, après une projection de son film sur le loup d'Abyssinie. Il m'avait parlé de l'insaisissabilité des bêtes et de cette vertu suprême, la patience. Il m'avait raconté sa vie de photographe animalier et détaillé les techniques de l'affût. C'était un art fragile et raffiné, consistant à se camoufler dans la nature pour attendre une bête dont rien ne garantissait la venue. On avait de fortes chances de rentrer bredouille. Cette acceptation de l'incertitude me paraissait très noble, par là même anti-moderne. À l'image, Sylvain Tesson, dans ce froid glacial des montagnes du Tibet, la caméra illustrant un plan fixe, montrant l'immensité. Vincent Munier, lui, les yeux plongés dans ses jumelles, cherchant du regard celle qui l'attend, celle qui le traque, celle qui l'obsède. L'écrivain, le photographe et nous-mêmes, nous retrouvons pour un voyage vers l'extraordinaire, vers une quête de l'impossible ou du possiblement vrai. Ou pourrait-on dire, vers la quête du vif et du vivant. Ensemble, nous embarquons dans le rêve qu'est celui de Sylvain Tesson et de Vincent Munier, et qui devient aussi peu à peu le nôtre. Capturer de nos yeux la rareté, capturer de nos yeux la panthère des neiges.
This world has ears and rocks have eyes.
En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure, à peine conscient.
Dans la
nature, t'es face à toi-même, tu peux pas tricher.
Meunier m'avait offert de soulever un coin du voile pour contempler l'errance des princes de la terre.
We are not alone.
Elle a vu passer. Quoi, elle est là. Elle nous observe.
We are not alone.
Il y a quelque chose là-haut. Tu l'as ?
C'est un saisissement du cœur. C'est tout ce à quoi on a renoncé.
La Panthère des Neiges, c'est ce documentaire. Sorti en décembre 2021, d'une heure 30, primé au César dans la catégorie meilleur documentaire, présenté à Cannes en 2021 et réalisé par Marie Amiguet, réalisatrice de reportages animaliers, et Vincent Munier, photographe animalier de renom. Ces derniers, accompagnés de l'écrivain Sylvain Tesson, nous font découvrir, lors d'un voyage au Tibet effectué en 2019, l'aventure que fut la leur, à travers la grandeur des hauts plateaux tibétains, tout en attente et en patience. Une patience indispensable en ce qu'il s'agit d'attendre le moment où la bête fera son apparition. Le rêve de la voir apparaître se fait sentir autant chez le photographe que chez l'écrivain. Constamment, nous sommes à l'affût. Sylvain Tesson dirait même que Munier avait fait de l'affût une esthétique en même temps qu'une philosophie. Même l'objectif de la caméra ne se résiste pas à vouloir filmer celle qui semble ne jamais se faire voir. En effet, cette caméra indispensable dans la capture du réel nous donne à voir l'instantané. La fougue et le pas soutenu de chats de palace en chasse, le regard d'un rapace en quête de sa proie survolant les horizons, l'innocence d'un oiseau qui par le cadre semble pourtant dominer celui ou celle qui le contemple. Des êtres qui par le prisme de la caméra semblent nous montrer un monde perdu, où la solitude et le silence dominent toute vision atterrée du monde vivant. Une heure et demie au cours de laquelle Vincent Munier et Sylvain Tesson nous racontent leur périple tibétain sous un froid constant. Des mois passés dans les montagnes du Tibet, à la rencontre des rares habitants et multiples espèces animales qui peuplent la zone. Des contacts insolites, primitifs, des regards qui nous laissent hagards. Sous nos yeux apparaît la nature, le vrai, le simple. Mais quelle est cette nature que nous avons laissée périr ? Quel avenir pour celle qui construit l'espèce humaine, l'espèce vivante ? Ici, là où tout semble nous échapper, la pureté d'un regard nous semble unique. L'espoir d'un monde différent se révèle. La contemplation nous absorbe et le temps s'arrête. On attend, puis on se lasse d'attendre. Enfin, l'attente se transforme en patience et la patience en vertu. Soudain, une apparition. Inattendue. Elle n'est pas celle qu'on attend, mais quelle rencontre. Une femelle ours et ses petits. Là, cachés derrière la montagne. Ils ne sont pas loin. Ils s'approchent, sont troublés, savent que nous sommes là, à les observer. Eux aussi nous observent. Les uns et les autres restent prudents. Chacun reste là où il doit être. De plus en plus près, tellement près qu'il faudrait mieux qu'on s'en aille. Nous nous en allons, dans le calme, sans dire un mot. L'attente se fait longue. La déception vous gagne et l'abandon vous guette. On se résigne et on accepte la réalité, car la fin du voyage approche. Il faut se rendre à l'évidence. Parfois, celle qu'on attend n'arrive pas. Cependant, en persévérant, les choses finissent par arriver. L'attente est longue, des heures, des jours, des mois. Mais ça n'est pas le prix à payer, non, car il ne s'agit pas ici d'argent, de compromis, d'engagement. Il s'agit simplement de volonté, de patience, de persévérance, d'envie, de hasard parfois. Il s'agit simplement d'y croire. De plus, j'ajoute, et ce sont les mots des Sylvain Tesson, que quand un être vous obsède, le monde prend sa forme. Soudain, enfin, elle apparaît. La panthère des neiges est là, comme un songe. Elle est là, face à nous. De son pelage, elle nous envoûte. De son regard, elle nous captive. De son errance, elle nous maintient suspendus. Suspendus à cette neige qu'elle frôle si docilement, d'un pas contenu mais léger, de ceux qui savent parfaitement où ils sont et où ils vont. Celle qui fait croire qu'elle a disparu est là. Et nous aussi, nous sommes là. Nous la contemplons, béat, ému, bouleversé. Personne n'en croit ses yeux. Ça y est, le temps n'a plus d'importance. Il s'arrête, l'espace envahit les esprits. Il n'y a plus qu'elle et nous. Elle sait qu'on est là. Elle sait que quelqu'un s'est immiscé sur son territoire, mais elle continue d'effleurer la neige sous nos yeux, continue de nous ébahir, sans que personne n'empiète sur l'autre. Puis, elle s'assoit juste en face de nous. Et elle nous fixe du regard et le maintient des minutes durant, comme une petite éternité. Le temps s'arrête de nouveau. Elle fixe la caméra, cet objet intrigant qui la traque. Elle nous fixe nous, avec ses yeux perçants qui nous rendent impuissants. Le contact est établi, et il est si fort. Si fort qu'on en retient son souffle. On est tapé par cette créature qui nous délivre un instant des plus rares. Elle nous met presque au défi. C'est comme si elle nous disait « Je suis sur mon territoire, vous non. Néanmoins, je vous autorise à rester là où vous êtes. Et je resterai moi aussi là où je suis. N'envahissez pas nos terres. » Personne ne bouge, personne ne parle. Mais il y a tant de choses qui se passent et se transmettent. Le dialogue se fait par de simples regards. Pas si simple en fait, indescriptible, puissant, transperçant. Un respect immense s'établit, sans un mot. Des larmes coulent sur nos joues. On ne sait pas vraiment ce qu'on ressent, ou si, tout à la fois. L'émotion est forte, tellement forte. On pense à tout et à rien. On voudrait que ce moment dure encore et encore. Et précisément, à cet instant, on comprend une chose. Parfois, la beauté transperce tout sur son passage, et les mots viennent à manquer. La beauté apaise, elle fait réfléchir, elle ouvre les esprits. Cette séquence est la plus bouleversante du film. Le voyage atteint son apogée, beaucoup de pensées surgissent. Les derniers mots de Sylvain Tesson nous saisissent le cœur, pour reprendre sa formule. Ils nous amènent à repenser le monde et l'humain. Pas seulement ces mots, mais le film tout entier. Nous rappelle ce que nous avons à sauver, ce pourquoi il faut lutter. Nous apprend que la patience, et je reprends une nouvelle fois les mots de l'écrivain, est la plus belle des vertus, car elle aide à aimer le monde. Cette panthère des neiges, si rare, nous montre à quel point nous avons oublié la rareté. Nous montre ce que nous autres, les humains, avons oublié. I've traveled a lot unaware. I was observed. We are not alone. Good news for we are not alone.
Merci Adriana, et après ce beau moment d'introspection, on va passer à quelque chose de beaucoup plus trivial. Le pavé de culture.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Oui, parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon, quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas.
Le pavé de culture, les savoirs inutiles, donc complètement indispensables de Thomas. Chaque mois, tu nous racontes une anecdote méconnue de l'histoire de la Sorbonne. Pour ce troisième épisode, voici l'histoire de la rue de Vaugirard.
Fermez les yeux.
Laissez-vous guider. Vous sortez de la fac. Il fait un soleil radieux. Vous n'avez qu'une envie, partir en goguette dans les environs de la Sorbonne. Quartier latin, ces pavés dont on a parlé ensemble, ces rues baignées de soleil en ces premiers jours du printemps. Vous vous laissez porter par vos premiers pas. Et là, elle est là, juste en face de vous. Personne ne la remarque, juste en face de la place de la Sorbonne, tranquille, dans le prolongement des deux rangées de tilleuls qui bordent le bassin au milieu, la rue de Vaugirard.
On habitait rue de Vaugirard, et quand je dis qu'on habitait, je veux dire que rue de Vaugirard, on se sait.
Discrète, et pourtant, c'est le plus grand axe de Paris, la rue la plus longue, 4363 mètres de long, messieurs, dames. Wow ! C'est aussi une des plus anciennes, et au départ, c'était une voie romaine qui conduisait vers l'ouest, vers Chartres et la Bretagne. Ouais, je sais hein, ce qu'on dit, c'est pas la taille qui compte. Alors pour votre gouverne, la rue la plus petite de Paris, c'est la rue des Degrés, dans le deuxième arrondissement. 5,75 m de long, c'est en fait un escalier de 14 marches. Là, on parle de pas moins de 407 numéros d'immeubles, deux arrondissements traversés, le lycée Buffon, le Sénat, le jardin du Luxembourg, le lycée Saint-Louis, l'Institut Pasteur, la Cato, l'Odéon. Elle porte le nom de l'ancienne commune de Vaugirard, aujourd'hui intégrée à Paris, tout comme les Batignolles, Bercy, Montmartre, Passy, Beaugrenelle, Belleville ou La Villette, qui ont toutes été annexées dans les années 1860. Vaugirard, c'était un moine, Gérard de Moret, abbé de Saint-Germain. Il a favorisé l'essor du hameau, qu'on a alors nommé le Val Gérard, le Vaugirard donc. À l'origine, c'était cette voie romaine qui reliait Lutèce à Chartres, puis elle a été réaménagée. La première fois qu'on en a parlé, c'était en 1636. Pour évoquer sa fange et sa boue, elle s'est même pris un obus de la grosse Bertha pendant la Première Guerre mondiale en 1918. On en est loin aujourd'hui. École, commerce, restaurant, parc, la plus longue rue de Paris est très recherchée. Coincée entre la place de la Sorbonne et la place de Versailles, on n'est pas les plus à plaindre. Mais si la rue de Vaugirard est chic aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas.
Ici, nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris, au bord du périphérique et à proximité de l'héliport. 3000 personnes habitent des logements sociaux construits sur la plaine Vaugirard. Un quartier excentré qui aurait pu trouver une réelle animation, une vraie vie, grâce aux espaces disponibles et au complexe sportif installé depuis plusieurs années. Et pourtant, ce coin de Paris est devenu aujourd'hui le bout du monde.
Le bout du monde, rien que ça, ça va les gars, quand on parle juste du 15e arrondissement. Moi aussi, ça me tue, hein. À chaque fois que je dois traverser la Seine pour aller rive gauche, mais bon, quand même, à croire qu'il n'y a que la rive droite, qu'on serait presque à la campagne.
Pour le programme scolaire, les enfants prennent un quart de ramassage le matin, et ce sont les seuls petits Parisiens à le faire. Ça, c'est une originalité, on en fait les frais aussi. Alors, les parents voient partir leurs enfants à 8h le matin et ne les revoient que le soir parce que même les mères qui ne travaillent pas ne peuvent pas les avoir à l'heure du déjeuner. Et c'est un ramassage scolaire comme on en voit dans les campagnes. Et on est dans Paris.
Wow, wow, wow. Prendre le bus à Paris comme les ploucs à la campagne. Non mais, puis quoi encore, après avoir rasé les cités, on y a maintenant installé des immeubles cossus dans les années 80. Le prix du mètre carré a rapidement grimpé pour atteindre les 15 000 euros en moyenne. Oui, oui madame, oui monsieur.
Mmh. Eh ben mon vieux.
Et en plus... Quand tu sais que c'est juste une case bleu clair au tout début du Monopoly et qu'elle coûte à peine 10 000 francs et qu'elle en rapporte tout juste 600 si jamais tu tombes dessus, si c'est pas faramineux.
Et en plus, moi ça me rassure, je me rends compte que je suis pas la seule à identifier Paris par rapport aux cases du Monopoly. Ok, bon, ce soir on a pas mal cogité, je vous ai présenté ma révélation de la semaine sur l'amour, Pierre ses interrogations sur les masculinités dans le monde de la musique, on a aussi pas mal bougé en Géorgie avec Zoé, sur les hauts plateaux tibétains avec les Panthères et avec Adriana, puis finalement on s'est baladé rue Vaugirard avec Thomas, bref, je crois qu'avant de se quitter on a bien mérité un truc, c'est le moment de prendre une douche, cette fois en live avec Nathan.
Sous la douche.
Ok. Si 3y plus 6 est égal à racine carrée de la fonction c3 fois 6 plus 5 est égal à la dérivée de pi divisé par 76. Tais-toi, non. Ah, c'est bon, t'as gagné, j'ai perdu le compte. Qu'est-ce que tu nous fais là? À peine levé, t'es déjà dans les calculs? Ça va aller, Elon Musk? Ça va pas aller. En plus, ça te va pas les mathématiques. T'as vu ta tête? Ça va, j'ai pas dormi. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'es amoureux? 2 plus 2 égale amoureux, c'est ça? Ouais, c'est bien ce que je dis. T'es pas copain avec les calculatrices malgré tes boutons. Ouais, pas d'amour, non. J'ai juste trop de devoirs. Oh, tu sais, c'est la même chose. On part sur une bonne lancée. Au début, on pense que tout va bien, et puis d'un coup, on se retrouve à être engueulé parce qu'on n'a pas fait ce qu'on nous disait. Vois le bon côté des choses. Le bon côté des choses? Bah oui, même si t'auras jamais de copine, tu sais déjà ce que ça fait. Écoute-moi bien. Non, en fait, tu sais quoi, m'écoute plus. Tu sais quoi, tu m'énerves. Oula, monsieur est énervé. En plus, je suis même pas prêt pour le partiel. Bah, triche. Tricher? Non, merci, j'ai de l'honneur. Comme la fois où t'as dit à ta petite cousine qu'il y avait plus de bonbons alors que tu les gardais pour toi. Non, mais en fait, après, tu sais, tricher, c'est pas si mal que ça. Hein. C'est seulement ce que j'appellerais prendre de l'avance. Non, pour le coup, je pense que tu prends plus du retard vu que t'apprends pas ce qu'il faut. Non, t'as pas compris. Il faut tricher intelligemment. Tu triches pendant tes examens pour les réussir et les valider. Et ensuite, tu peux prendre ton temps pour vraiment apprendre ce que t'as compris et ce qu'on t'a donné comme travail toute l'année. C'est vrai qu'en fait, j'aime pas réviser seulement parce qu'on me l'impose. Hein. Mais tu fais comment pour tricher, toi?
Oh, tu sais, il y a plein de moyens, hein. Papier dans le stylo, écrit dans la main, écrit sur le t-shirt du mec devant.
Pas sûr de tes techniques.
Plus c'est gros, plus ça passe.
On parle toujours de la même chose, là?
Après, on peut aussi parler de la fois où t'as fait passer ton pote de 6e pour celui qui avait cassé le vase de ta mère alors que...
Eh, ça va, j'ai pigé. De toute façon, on peut pas tricher, il y a des surveillants.
À ce que je sache, il y a des gardes dans les prisons. Pourtant, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui s'en échappent. Donc je pense que même avec ton QI négatif, tu devrais pouvoir te débrouiller.
Si je me fais choper, tu sais que c'est quand même interdit d'examen pendant plusieurs années.
Oh, tu vas pas me dire que ça change grand-chose par rapport à tes partiels que t'as révisés la veille.
Sinon, il y a une autre solution.
Ah oui, laquelle?
Le voyage dans le temps.
Ok, c'est officiel, il est complètement défoncé ce gosse.
Non, je suis sérieux, voyager dans le temps, c'est quoi? C'est avancer d'une durée de temps plus rapide que ce qu'on pense vivre.
Non, pas exactement.
Donc dormir, c'est voyager dans le temps.
Dormir, c'est voyager dans le temps.
Tu dors, tu crois te réveiller 2 secondes plus tard, mais en fait, ça fait 3 heures.
Et en quoi ça t'aide pour ton partiel?
Bah, à oublier la déprime de mon échec.
Oh bah non, c'est bien plus marrant quand tu viens pleurnicher après. C'était trop difficile, ils ont abusé, alors que c'est de ta faute.
Y a pas d'offre satisfait ou remboursée avec toi?
Non, je suis avec toi pour la vie. Mais sache que moi aussi, ça me fait tout autant plaisir.
Cool.
Bon allez, je suis gentil aujourd'hui, je te le dis.
Tu me dis quoi?
Que t'es en retard.
Ah, bah effectivement, oui, pour une fois, t'es gentil.
D'une demi-heure.
Quoi? Mais espèce de... Ah!
C'est la fin de cet épisode de Cours d'honneur. Merci de l'avoir suivi. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux en passant par la page RSU, Radio Sorbonne Université. Merci à Radio Campus Paris de nous avoir accueillis. C'était Blanche Monin à l'animation, Thomas Chenel à la mise en onde. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, n'oubliez pas, tout est possible. Salut! Ce qu'on veut, c'est...
vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.